Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de Métropolez-vous, une émission où il est souvent question d'urbanisme et de projets urbains. Rien de plus normal dans une métropole dont la population grandit chaque année et qui doit créer les logements et les équipements permettant d'accueillir ses nouveaux habitants. Parmi les contraintes auxquelles doit faire face Toulouse Métropole dans sa politique d'urbanisme, il y en a une récente, c'est celle du zéro artificialisation nette, qu'on désigne par commodité sous l'acronyme ZAN, un vrai casse-tête pour les collectivités et plus encore pour celles à forte croissance démographique comme c'est le cas de l'agglomération toulousaine. Le ZAN est né de l'urgence écologique à laquelle notre société est confrontée. Elle doit désormais le prendre en compte dans tous les domaines, en raison du réchauffement climatique, de la pollution des sols et de l'air et de la nécessité de préserver la biodiversité. Autant de nobles préoccupations, mais qui ont de nombreuses conséquences sur les politiques publiques. Nous allons donc consacrer cette émission à la prise en compte et à la mise en œuvre du ZAN dans la métropole toulousaine. Et pour vous présenter la mise en œuvre du ZAN dans la métropole toulousaine, j'ai invité Annette Léniaud, adjointe au maire de Toulouse, vice-présidente de Toulouse Métropole chargée de l'urbanisme et des projets urbains. Bonjour Madame la vice-présidente et merci d'avoir accepté mon invitation pour nous parler de ce sujet difficile, vrai casse-tête, comme je le disais, pour tous les élus à l'urbanisme en France.
Bonjour.
Je propose qu'on précise d'abord ce qu'on appelle le zéro artificialisation net, le ZAN donc, l'adjectif net ayant une grande importance dans cette expression.
Alors le ZAN, enfin le terme ZAN, zéro artificialisation net, c'est un objectif. Objectif ZAN 2050. En 2050, il y aura un équilibre. Il doit toujours y avoir un équilibre entre ce qui est artificialisé et ce qui est désartificialisé. C'est-à-dire que l'objectif de cette loi, qui est pertinente sur le plan en termes de développement durable, transition énergétique, changement climatique, bien évidemment, elle est assez complexe, la loi. Dans le domaine de l'urbanisme qui nous concerne, c'est une trajectoire qu'elle précise, elle fixe une trajectoire sur les années à venir jusqu'en 2050, l'objectif étant le zéro artificialisation nette, mais cette trajectoire s'établit sur des périodes de 10 ans, sur 3 périodes de 10 ans. La première période de 10 ans, l'objectif c'est de réduire, de limiter la consommation foncière. La deuxième période de 10 ans, c'est aussi de limiter la consommation foncière, mais on aborde le sujet de l'artificialisation. C'est quelque chose d'excessivement complexe parce qu'il faut savoir chiffrer et mesurer cette artificialisation, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous parlons de la trajectoire. Donc c'est un objectif. L'essentiel de la loi, c'est éviter et réduire l'étalement urbain.
Alors la loi à laquelle vous faites allusion, c'est la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Et c'est là qu'est indiqué cet objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Donc il n'est pas mis en œuvre immédiatement, mais à l'horizon 2050. Le but, c'est qu'on reste, peut-être que ça permettra aux gens de bien comprendre, à artificialisation du territoire constante, qu'on n'artificialise plus. C'est-à-dire si on artificialise quelque part, on doit désartificialiser d'autre part. La même surface.
C'est l'objectif final.
Voilà.
C'est en 2050.
Alors, 2050.
Voilà. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la trajectoire pour arriver à cet objectif de ZAN. Mais c'est la trajectoire qui est importante et les 10 prochaines années, c'est-à-dire 2021, parce que la loi est applicable immédiatement.
Oui.
Elle est sortie en 2021, elle est applicable en 2021. Donc à partir de 2021, dans la première décennie, 2021-2031, nous devons limiter notre consommation foncière de manière à limiter cet étalement urbain et les décennies qui suivent poursuivre ce travail.
Oui, alors dans les objectifs, j'ai parlé de la protection de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement
bien
climatique,
sûr.
Et puis il y a aussi la limitation quand même des risques d'inondation. Hein.
Également tout ce qui fait l'actualité aujourd'hui sur les constructions un petit peu diffuses, on peut le dire comme ça, et qui génèrent des problèmes liés au changement climatique d'ailleurs, hein, mais on le voit tous les jours, donc il faut absolument prendre en compte tous ces aspects dorénavant dans le développement de nos métropoles ou des villes.
On va rappeler que depuis le début des années 80 en France, les terres artificialisées sont passées de 3 à 5 millions d'hectares, c'est quand même plus 70%, et avec une croissance très supérieure à celle de la population qui, elle, dans le même temps, a augmenté de 19%. Alors l'urbanisation de la France, c'était souvent jusqu'alors un étalement urbain à la périphérie des villes et notamment des grandes villes, avec donc la conséquence de l'artificialisation accrue des sols, et Toulouse en est un parfait exemple.
Alors, je voudrais rectifier quelque chose malgré tout dans ce que vous venez de dire. Vous parlez de l'artificialisation des sols ou le développement des villes, de l'étalement des villes. Il y a 22 métropoles en France. Les 22 métropoles en France ont contribué pour 1% à l'artificialisation des sols. Si on regarde l'artificialisation des fonciers depuis 2009 jusqu'à nos jours, les 22 métropoles ont consommé 1% du territoire français, alors qu'elles accueillent 29% de la population. Donc vous le voyez, il y a des idées reçues.
Je parle bien des villes, hein, je n'ai pas dit les grandes villes.
Des métropoles,
Oui, mais les métropoles entre autres.
Alors les villes, et on se rend compte quand on regarde, mais c'est important de le dire, parce que pour beaucoup, dans l'esprit de beaucoup, les responsables de cet étalement urbain, ce sont les métropoles. On voit la métropole parisienne, par exemple, les métropoles. Ben non, les métropoles, je répète, c'est 1% de l'artificialisation des sols. Ceux qui ont construit le plus, finalement, ce sont les villes moyennes qui se sont le plus étalées, les petites villes également.
En créant des zones commerciales à leur périphérie, entre autres.
Entre autres.
Merci, j'espère qu'on aura donné assez de précision et d'information à nos auditeurs pour qu'ils comprennent bien ce qu'est Lausanne et les contraintes qu'il impose en matière d'urbanisme. Nous allons prolonger notre discussion dans quelques minutes pour expliquer comment Lausanne est mise en œuvre dans la métropole toulousaine. Pour l'instant, petit détour par l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son habituel flash d'information hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. Pour commencer ce flash, une information importante pour tous ceux qui se déplacent avec des véhicules motorisés à Toulouse. La ville rose passe aux 30 km/h à partir du 1er janvier 2024.
Oui, 80% des voies toulousaines passent à 30 km/h contre 50% actuellement. Au total, 980 km de voirie sur les 1151 km existants seront donc limités à 30 km/h. 53% des rues et trois tours résidentielles l'ont déjà été progressivement. Objectif maintenant, améliorer la sécurité routière. Ce changement est aussi la première annonce du code de la rue en cours d'élaboration à Toulouse. Il doit améliorer la cohabitation entre les vélos d'une part et les piétons et les voitures de l'autre. Les seules voies maintenues à 50 km/h sont les grands axes absorbant un trafic important, comme par exemple les boulevards qui longent le canal du Midi, l'avenue Jacques Chirac, ex-boulevard des Crêtes, ou les pénétrantes à l'entrée de la ville comme l'avenue des États-Unis et l'avenue de Castres, ou encore la route de Seyss.
Certains de nos auditeurs concernés par ce dispositif le savent sans doute déjà. Depuis 2019, Toulouse Métropole encadre la création de meublés de tourisme afin d'en contrôler l'essor. Et il y a du nouveau dans ce domaine, Corinne.
Oui, parce que pour renforcer le dispositif en place, une nouvelle mesure a été décidée. L'autorisation préalable est désormais obligatoire pour la transformation de locaux commerciaux situés à Toulouse en meublés de tourisme. L'objectif est de préserver l'activité commerciale de proximité, l'artisanat et de conserver un équilibre entre emploi, habitat, commerce et services. Cette règle est déjà entrée en vigueur au 1er novembre.
En revanche, il y a parfois des mesures qui avaient été validées précédemment qui sont annulées. Annoncée en juin, la fin de la gratuité des musées de Toulouse et de l'agglomération, certains dimanches de l'année, ne sera finalement pas instaurée.
Tout à fait, Toulouse Métropole prévoyait de modifier la gratuité de tous les musées le premier dimanche de chaque mois aux collections permanentes des principaux établissements de la ville rose et de son agglomération. Les élus avaient voté une hausse des tarifs des musées lors des quatre premiers dimanches du mois de l'année au moment où il y a le plus de touristes. La semaine dernière, le Conseil de Toulouse Métropole a annoncé la marche arrière de l'exécutif concernant cette fin de gratuité. L'accès aux collections permanentes des principaux musées de Toulouse et de son agglomération restera donc gratuit tous les premiers dimanches de chaque mois, toute l'année pour les habitants de la métropole. Comme pour les touristes, la gratuité ne concerne que les expositions permanentes. L'accès aux expositions temporaires reste payant.
Et pour finir, une information qui nous concerne tous cette fois-ci, sachez que vous êtes invité à donner votre avis sur le site web de Toulouse Métropole.
Depuis novembre 2022, les sites web de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole se sont réunis à un site unique, metropole.toulouse.fr. L'institution souhaite recueillir votre avis sur ce site pour améliorer son service aux usagers. Ce questionnaire vous prendra environ 5 minutes et vos réponses resteront strictement confidentielles.
C'était le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix, que je remercie au passage. Annette Léniaud, est-ce que vous voulez réagir à une des informations que nous venons d'entendre, ou éventuellement en compléter une? Alors peut-être celle qui concerne les meublés de tourisme, ce dispositif qui existe depuis 2019 donc.
Oui, je crois qu'il est important l'objectif, et il est important sur le centre de Toulouse de maintenir de la diversité d'activités et la mixité. Donc il faut des commerces, il faut que le centre-ville soit vivant, donc des commerces, des logements bien sûr, il faut accueillir des grandes famille et puis de l'hébergement pour de l'hôtellerie, mais il faut veiller à ce que ça ne se transforme pas dans une activité unique. Actuellement, on a la chance d'avoir un centre-ville vivant, actif, vivant, avec un patrimoine important, et il faut absolument le maintenir. Et au passage, je peux signaler que nous sommes en train de travailler sur un document d'urbanisme spécifique au centre-ville, qui s'appelle le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui est un document d'urbanisme mais qui intègre le patrimoine, qui correspond en fait à un projet urbain dans le centre-ville et qui précise tout cela.
Merci d'avoir bien voulu réagir à l'actualité métropolitaine et merci pour toutes ces précisions. Retour maintenant à notre sujet du jour, la mise en œuvre du ZAN dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
La suite de ce numéro de Métropole et vous, toujours en compagnie d'Annette Léniaud, adjointe au maire de Toulouse, vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'urbanisme et des projets urbains. Alors, comment sont intégrés le ZAN et ses objectifs dans la politique d'urbanisme de Toulouse Métropole, notamment dans ce document qu'on appelle le PLUIH, le Plan local d'urbanisme intercommunal Habitat?
Alors ce PLUIH, nous sommes en train d'y travailler avec un objectif, c'est de l'approuver fin 2025, donc dans un délai qui est quand même excessivement court. Et c'est l'occasion pour nous d'intégrer dans ce document d'urbanisme toutes les vertus de la loi climat et résilience, notamment dans le domaine du développement durable, du changement climatique, avec des préconisations importantes dans la transition énergétique. Donc c'est un document qui sera excessivement moderne. Quand je dis moderne, c'est moderne dans l'intégration de tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, donc tout à fait d'actualité, et qui intègre la loi climat et résilience, qui est de limiter notre consommation foncière. Et nous avons posé comme règle de diviser par deux notre consommation foncière par rapport à la consommation précédente des 10 années auparavant. Alors, au passage, je voudrais préciser que la limitation de la consommation foncière est intégrée dans le code de l'urbanisme. Donc, c'était déjà une préoccupation que nous avions. Donc, déjà, précédemment, nous avions une trajectoire de limitation de la consommation foncière. Sans doute pas suffisante, hein, mais nous avons déjà une petite trajectoire. Mais aujourd'hui, nous prenons les choses beaucoup plus encore en main, puisque la loi nous y incite, et nous fixons comme règle divisé par deux notre consommation foncière. Et pour vous donner un ordre de grandeur, cette consommation foncière, elle mesure et avec un outil dont nous disposons.
Oui, j'allais vous poser la question, justement, comment on la mesure ?
Nous avons un outil de l'IGN, hein, et c'est cet outil qui regardera l'artificialisation. Mais aujourd'hui, cet outil nous est utile pour évaluer la consommation foncière passée et la consommation foncière à venir. Donc elle se base sur l'analyse du territoire à partir de photos aériennes et un logiciel mathématique, un algorithme qui fait le reste. Donc cette analyse de la consommation foncière, elle était basée jusqu'à présent sur une photo aérienne de 2019 et nous l'avons actualisée avec des photos aériennes de 2022. Et nous nous rendons compte que depuis 2019, nous continuons à baisser la consommation foncière, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, puisque la loi est là pour dire il ne faut plus consommer. On aurait pu imaginer que les élus allaient vite se dépêcher actuellement, puisque les documents d'urbanisme aujourd'hui l'autorisent, consommer. Ben non, nous avons continué à diminuer notre consommation foncière légèrement, si bien qu'aujourd'hui, nous avons, pour donner un ordre de grandeur, pour les 10 années du PLUIH, nous pourrons consommer 470 hectares de foncier. Pour 37 communes sur 10 ans, ça n'est vraiment pas beaucoup. Donc ça vous démontre l'ambition que nous avons dans la construction, dans la mise en place de ce document d'urbanisme et les difficultés que nous avons, puisque nous sommes 37 communes, à nous partager ces 470 hectares, sachant qu'il faut du logement, il faut de l'activité, il faut du commerce, il faut des équipements, il faut des voiries. Il faut tout ça et tout cela.
Tout en essayant de préserver les surfaces agricoles et les espaces naturels.
C'est sacré, espace agricole, espace naturel, c'est sacré. Nous ne pourrons consommer en espace agricole ou forestier que 470 hectares pour tout ce dont nous avons besoin dans une métropole. Et à titre d'exemple, un cimetière ne s'implante pas au cœur d'une ville ou d'un village. Donc il y a beaucoup d'équipements qui nécessitent, sans parler de l'activité économique, notre activité économique Airbus.
En plus, nous sommes dans une agglomération qui se développe beaucoup sur le plan économique, qui attire de nouvelles entreprises, où certaines entreprises existantes ont besoin de surfaces supplémentaires.
Nous cumulons beaucoup de choses. Une métropole attractive, une métropole qui a une croissance qui n'est pas une croissance extérieure, qui est une croissance interne, puisque le solde naturel
c'est surtout
la métropole
le solde naturel qui fait
très
que
important.
La
Donc,
population
nous,
augmente.
Nous devons loger les Toulousains et nous devons accueillir, ça génère également une activité économique qui est présente, mais qui se poursuit, très importante. Donc, nous devons accueillir les Toulousains, nous devons accueillir ceux qui viennent travailler, nous devons également participer au développement économique, donc une attractivité très forte, et en même temps, nous devons limiter notre consommation foncière. Donc, vous voyez qu'il y a déjà, avec cette trajectoire que nous avions, qui est une trajectoire vertueuse, de la diviser par deux, c'est encore plus pénalisant pour nous. Donc, vous le voyez, nous cumulons l'attractivité, la trajectoire qui était déjà un petit peu vertueuse de limitation de la consommation
foncière.
Et ça nous génère des contraintes et un défi qui est excessivement complexe à relever.
Comme on dit, pour tenir tous les bouts de la ficelle, c'est compliqué. Alors, on revient au ZAN. Quelles sont les priorités et les possibilités concernant la mise en œuvre du ZAN dans la métropole toulousaine? Est-ce que c'est plutôt de réutiliser autant que possible des espaces déjà artificialisés ou alors en désartificialiser certains pour pouvoir en artificialiser de nouveau, peut-être parce qu'ils présentent un intérêt sur le plan économique ou en termes d'accessibilité pour les transports. Comment vous vous inscrivez dans ce contexte-là?
Donc, on l'a bien compris, il faut moins consommer. Mais de toute façon, la loi nous impose des choses malgré tout. Pour consommer du foncier, il faut démontrer que nous n'avons pas la possibilité de construire dans les zones urbanisées.
Déjà urbanisées.
Autrement dit, nous devons faire l'inventaire, par commune, du potentiel d'intensification, c'est-à-dire division parcellaire, par exemple, puisqu'il y a eu beaucoup d'étalements urbains, et Toulouse aussi, puisque Toulouse s'est construit d'une façon horizontale. Donc, d'abord, potentiel d'intensification, de division parcellaire, et potentiel de renouvellement urbain. Donc, pour chacune des communes, nous devons estimer à partir du document de façon pas aléatoire, c'est même pas au doigt mouillé, c'est construit en analysant le bâti, en analysant les bâtis vacants, en étudiant tout cela. Nous avons, commune par commune, étudié quel était le potentiel d'intensification et de renouvellement urbain, ce que vous évoquez. On démolit, on désartificialise, éventuellement on peut reconstruire. Et une fois que l'on a analysé ce potentiel, ce qui reste, c'est ce qu'on pourra consommer en termes de potentiel foncier, d'extension foncière. Donc on fait cela commune par commune. Et la difficulté que nous rencontrons, puisqu'il y a 37 communes, c'est que nous gérons des mètres carrés. Hein. Et c'est un petit peu l'objectif de la loi est vertueux. Mais la méthode, elle est comptable, parce que nous sommes en train de compter les ENAV dont les communes vont pouvoir disposer pour le développement économique, pour construire un local municipal, pour construire un cimetière, pour construire...
Et nous sommes une dans école, ce travail, une crèche.
Une école, voilà. Nous sommes dans ce travail très fin au niveau de chacune des communes.
C'est un travail de bénédictin. Ça suppose des arbitrages, forcément. Qui, dans certains cas, ça va être l'arbitrage entre l'intérêt économique, l'intérêt constructible, la préservation des zones naturelles. Et puis, parfois, vous allez avoir affaire à la pression d'associations de protection de la nature.
Voilà, vous avez démontré la complexité et l'humilité dans laquelle nous devons être pour avancer. Parce que nous sommes en train de défricher l'application d'une loi qui est un bouleversement total dans la façon de construire la ville.
Et puis il y a beaucoup de théories dans tout ça, après il y a de la pratique.
Où que ce soit dans une métropole ou même dans une ville moyenne, on ne construit plus comme avant. On fait du renouvellement urbain, mais c'est facile à dire, sauf qu'à faire, on se heurte malgré tout, parce que vous avez bien compris que pour accueillir la même population qui se développe, par exemple, dans la métropole toulousaine, à un moment donné, si l'espace est limité, pour accueillir la même population, il va falloir un petit peu monter. Et là, on se heurte à des associations. On veut aussi une ville excessivement vertueuse en termes de qualité urbaine, de qualité de vie pour les habitants. Donc on veut davantage d'espaces verts, on veut davantage de verdure, on veut des îlots de fraîcheur, on veut beaucoup de choses. Et pourtant, l'espace va se limiter, donc il faut accepter de monter. Et là, on se heurte à une acceptabilité de la population qui n'est pas préparée encore à ce bouleversement et qui ne le connaît pas ou qui le connaît mal. Donc je salue votre émission parce qu'il faut en parler, parce qu'il faut expliquer qu'il y a un changement de modèle, hein, mais que malgré tout, notre objectif, c'est d'accompagner ce changement et de faire en sorte que la qualité de vie soit par des appartements bien conçus, etc., etc. Donc, c'est ça la difficulté. Et entre toutes les communes ne sont pas identiques. Exemple, Cornebarieux. Cornebarieux est au cœur d'Airbus, quasiment. Donc, les fonciers de Cornebarieux doivent être peut-être consacrés, peut-être, je dis bien parce que je cite une commune en particulier, mais doivent peut-être être consacrés aussi à l'économie, puisqu'on ne va pas déplacer Airbus. Blagnac, c'est la même chose. Donc, toutes ces, toutes ces communes qui sont à l'ouest, elles sont impactées, si je peux dire, par l'activité d'Airbus, qui peut être consommatrice de foncier. En contrepartie, d'autres communes n'ont absolument pas du tout cette vocation, accueilleront peut-être ou de la population, parce qu'il y a des transports en commun performants, ou en accueilleront moins, justement, parce qu'elles ne sont pas très, très équipées. Donc, vous voyez, toutes les communes ne sont pas
à égalité.
Elles ont des vocations différentes parce qu'elles ont des positionnements et une morphologie différente et parce qu'il faut construire là où il y a des équipements structurants. Il faut construire de l'activité là où il y a le cœur des activités et non pas disperser tout cela partout. Donc entre logement, économie, équipement, parce qu'ils sont voiries, tout cela, c'est lié et nous devons convaincre tout le monde. Et les 37 communes doivent avancer en ayant bien compris tout cela.
Une chose qu'on peut peut-être préciser, c'est que la commune de Toulouse, par exemple, je prends Toulouse, hein, a une population 4 fois et demi moindre, grosso modo, que celle de Paris, avec une surface supérieure. On pourrait se dire, il reste de la place. Oui, sauf que ça ne marche pas comme ça.
Et voilà, c'est l'exemple, ça ne marche pas comme ça, parce qu'on pourrait se dire, Toulouse est horizontale, on va mettre deux niveaux au-dessus de tout le monde, et comme ça, le problème sera réglé comptablement. On aura peut-être
coché la case, on peut
mais ce n'est pas de l'urbanisme. L'urbanisme, c'est rapprocher les habitants de leur lieu de travail, soit parce qu'il y a des activités commerciales ou artisanales à proximité, mais c'est aussi parce qu'il y a des transports en commun qui les rapprochent rapidement de leur lieu de travail. C'est aussi améliorer la qualité de vie des habitants. Nous, on s'engage sur Toulouse à avoir un parc à 5 minutes de chez soi. On s'engage également à avoir des équipements sportifs. On s'engage également à avoir... Et on ne met de la population que là où il y a les aménités, les cœurs de quartier, les équipements. La troisième des lignes de métro, par exemple...
Justement, oui, ça c'est typiquement un grand projet qui, a priori, va nécessiter une artificialisation supplémentaire.
Pas forcément. Elle va accueillir. C'est un périmètre, si je peux dire, l'ensemble de la ligne, celle de la troisième ligne, c'est un périmètre sans doute de renouvellement urbain, mais peut-être pas partout non plus, de la même façon.
A priori, non. Pas, c'est vrai.
Et pas partout de la même façon, surtout. À proximité des stations, on peut imaginer... qu'il y a d'ailleurs, on a lancé sur tout le périmètre de la troisième ligne de métro, sur la métropole, c'est-à-dire depuis Colomiers jusqu'à Montaudran, la Bège qui n'est pas dans la métropole, mais jusqu'à, au moins sur le territoire de la métropole, nous avons lancé des études, des plans guides, donc nous avons 6 séquences, séquences d'analyse, des bureaux d'études qui travaillent comment on fait ce renouvellement urbain. Parce que dire on fait du renouvellement urbain pour accueillir, mais on s'y prend comment, ça. Il faut un petit peu organiser tout cela, anticiper de manière à ce que les opérateurs qui sont promoteurs immobiliers puissent s'inscrire dans une trajectoire de renouvellement urbain et non plus déposer des projets au coup par coup. Donc il faut avoir une vision de ces territoires. Et cette vision, nous sommes en train de l'affiner de manière à pouvoir ensuite demander aux opérateurs de mettre en œuvre cette vision urbaine que nous avons sur ce territoire, qui est un territoire de renouvellement urbain, parce qu'il dispose de... Mais ça n'est pas que la troisième ligne. Autour des stations de métro existantes aussi, il y a certains secteurs qui mériteraient qu'on intensifie un petit peu autour.
Alors, à contrario, typiquement comme exemple de désartificialisation, on peut parler de l'ancien parc des expositions sur l'île du Ramier, qui, elle, va être rendue, en tout cas ce secteur va être rendu à la nature en grande partie.
Voilà. Alors, je vais citer l'exemple de... Mais au niveau de la troisième ligne de métro, c'est pas forcément, quand je parle de renouvellement urbain, c'est pas forcément artificialisation. Renouvellement urbain, c'est renouvellement. Oui, on démolit ce qui existe pour reconstruire selon une vision, je vous dis, un plan guide, mais en préservant des cœurs d'îlots, en préservant de la pleine terre, avec des exigences...
Voilà,
avec des exigences de pleine terre que nous inscrivons dans le PLUH, justement. Donc, cet objectif de pleine terre et de végétalisation est primordial dans la fabrique de la ville. Alors, pour en revenir sur l'île de Ramier, c'est 10 hectares que nous avons désartificialisés. Donc, c'est important parce que c'est le poumon vert de la métropole, si je peux dire. Mais vous vous rappelez, autour des halls, c'était un immense parking.
Ah oui.
Tout cela a été décrouté. Ce sera un parc. on restitue le parc qu'il y avait autrefois, hein, ce poumon, alors sans compter toute la partie sud de l'île sur laquelle nous travaillons aussi, mais la partie qui était artificialisée a été désartificialisée, les bâtiments que nous ne souhaitions pas garder ont été détruits et ont été déconstruits. Tous ces gravats ont été réutilisés.
Oui, c'était recyclé.
Et ont été recyclés dans les voiries du Mythe. Donc vous le voyez, c'est 10 hectares qui seront désimperméabilisés sur l'île du Ramier.
Merci pour toutes ces explications, ce n'est pas simple, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il me reste à vous remercier, Annette Léniaud, d'être venue nous présenter et nous expliquer la mise en œuvre du ZAN dans la métropole toulousaine. Sa mise en œuvre est complexe, comme on a pu le constater, mais bon, vous l'avez expliqué clairement, ce qui n'était pas simple non plus. Merci d'avoir relevé le défi. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.